pro des cryptos pour parler blockchain, crypto-monnaie et d'avenir. Avec, pour nous accompagner pour cette 50e, Owen Simonin. Bonjour Owen.
Bonjour.
En plateau avec nous aujourd'hui, à la tête de Just Mining et sa chaîne YouTube Hacheur, Vincent Gann. Bonjour Vincent.
Bonjour Guillaume, bonjour.
Analyste technique indépendant présent à nos côtés depuis le premier jour. Bonne 50e, Vincent. Merci. Et Alexandre aussi à nos côtés, Alexandre Stachenko. Salut Alexandre.
Bonjour.
Co-fondateur de Blockchain Partner, directeur blockchain crypto pour KPMG France. Vous pouvez retrouver bien sûr les principaux arguments de nos trois experts sur le fil Twitter BFM Crypto. Vincent.
Oui.
Le Bitcoin semble à nouveau du bon côté de la force. Le cours du Bitcoin rebondit nettement ce début février. Le pire, c'est le côté je suis ton père.
Il y a beaucoup de Star Wars en ce moment dans les médias.
Hein. Oui. C'est vrai. Y compris des candidats à la présidentielle, Exactement. C'est ça. Le pire est-il désormais derrière sur le Bitcoin depuis le rebond là? Est-ce qu'on peut se dire que le point bas est passé?
Oui, alors c'est la bonne question. Moi, c'est ce que je pense. On va rappeler un peu le contexte aux auditeurs, mais brièvement, rassurez-vous. Le cours du Bitcoin baissait depuis 3 mois. Depuis novembre dernier, rappelez-vous, les 65 000 dollars, c'est le niveau qui a bloqué la hausse déjà au printemps dernier. Et puis, à nouveau, 40% de baisse. Alors, on peut toujours trouver des thèmes fondamentaux qui expliquent cette baisse, la volatilité sur le marché action, tous les thèmes d'inquiétude fondamentale dont vous parlez très bien. Mais depuis début février, un rebond presque inattendu du cours du Bitcoin, de 33 à presque 45 000, un rebond qui est intervenu un peu au milieu de nulle part. Alors, le marché a à nouveau tenu une zone de support technique importante, qui était celle du point bas de l'été dernier, la zone des 30-35 000 dollars. Tenir un support, c'est bien. Dépasser une résistance technique, c'est mieux pour ma partie de l'analyse technique. On en a dépassé une, les 40 000 dollars. Alors, est-ce que le point bas est fait? On peut jamais écarter l'ultime frayeur. Moi, j'appelle ça le scénario de l'ultime frayeur. La chute impulsive à 25 000 dollars, voire plus bas pour certains, je n'y crois pas. Maintenant, ce qu'il faut, c'est deux choses. C'est faire une structure de renversement haussier. C'est probablement ce que le marché est en train de faire actuellement entre 40 et 45 000 dollars. Mais plus important, cette remontée des prix doit s'accompagner d'une remontée de l'engagement. Alors, je vais être bref. L'engagement des traders pros, on peut le mesurer sur le marché des contrats futurs, des options et sur les fonds, les ETF. On en a parlé sur cette antenne, à travers l'open interest et l'AUM, l'encours sous gestion. Et la bonne nouvelle pour le rebond en place depuis début février, c'est que le rebond des cours s'accompagne enfin, c'est timide, mais tout de même, d'un retour, d'une reprise de l'allure haussière de l'engagement sur les marchés dérivés et de l'AUM sur les fonds. Donc ça, c'est une bonne chose. Moi, j'ai envie de croire au point bas. J'y croirai définitivement lorsque le marché dépassera avec force la résistance des 45 500 dollars. Attends, moi, mon point de vue, mais c'est subjectif, c'est que oui, le point bas a été trouvé sur les 33 000 dollars. Et j'espère que le marché ne me donnera pas tort dès la semaine prochaine.
C'est ça. Si on parlait que de Bitcoin, ceci dit, tout le monde nous en voudrait. Son dauphin, l'Ether, se défend bien aussi, Vincent. Lui aussi remonte la pente là en ce début février. Quel facteur fondamental pourrait entretenir une superperformance d'Ether sur le Bitcoin en cette année 2022?
Alors oui, alors c'est la thématique de la surperformance d'ETH vis-à-vis du BTC. Il y a plusieurs choses. Alors moi, je regarde déjà ça sous le prisme de l'analyse technique, puisque je suis un jusque boutiste chartiste. Je fais de l'analyse technique sur la dominance de l'Ether, ou encore sur le ratio Ether-Bitcoin, donc Ether sur Bitcoin. Et l'analyse technique donne un message haussier pour ces deux indicateurs. Ce n'est pas une hausse verticale, mais plutôt une pente haussière légère qui tend à dire que 2022, ce serait une phase de surperformance pour l'Ether vis-à-vis du BTC. Alors maintenant, pour le plan des fondamentaux, c'est l'année de la transition, c'est l'année du basculement vers le 2.0, enfin si tout va bien, c'est l'année de l'arrivée massive du Proof of Stake. Bon, un certain nombre de choses qui pourraient, en tout cas l'analyse technique suggère que tous ces éléments de transition, s'ils ne se mettent pas en place au milieu d'année ou d'ici la fin d'année, il y aura une grosse déception. Donc c'est le scénario moi, que j'ai d'une surperformance d'ETH cette fois-ci définitive, un gros rattrapage en termes de dominance du fait de ce basculement fondamental.
Bon, vous avez choisi le verre à moitié plein, en tout cas plutôt la partie optimiste.
Quoi. Voilà, mais c'est la partie optimiste.
Il nous fait aimer les courbes en les rendant désirables, les courbes des cryptos qu'il anticipe et qu'il prolonge. Vincent, vous restez avec nous, Vincent.
Oui.
Tout à l'heure, on parlera d'ailleurs du potentiel d'autres cryptoactifs. Mais tous les trois ici, vous partagez ce point commun. Vous les aimez, ces poussées d'adrénaline qui font partie de ce monde des cryptoactifs. Pas une journée calme dans ce bas monde des crypto-monnaies. On va d'ailleurs parler d'un hack. Cette fois, pas d'un hack récent, mais d'un hack de 2016, le hack de Bitfinex, un exchange de crypto-monnaies. Parce que, grande nouvelle, les 3,6 milliards de dollars hackés à l'époque, ça y est, viennent d'être récupérés. Owen, 6 ans après, qu'est-ce qu'on peut dire de ce hack?
C'est une vraie histoire de fou furieux. Vraiment, hein, c'est vraiment une histoire de fou furieux. Déjà, pour remettre le contexte, à l'époque, ça représentait de coup 120 000 bitcoins, mais le bitcoin était à 600 dollars pièce à peu près. Donc on était sur 70 millions de dollars. Au moment de ce hack, la plateforme Bitfinex a distribué un token en disant à tous ses utilisateurs, un token comme une reconnaissance de dette, en quelque sorte, une reconnaissance de hack, plutôt, je pense qu'on peut dire. Et petit à petit, en fonction des performances de la plateforme, elle a racheté ces fameux tokens à 1 dollar unité à ses utilisateurs. Il y a même eu un cas où elle a donné certaines actions de l'entreprise à des utilisateurs pour qu'il y ait des compensations. Mais du coup, on considérait ça comme c'est fini, c'est derrière, on ne les retrouvera plus jamais. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a réussi à remettre la main sur ces fonds. Et les personnes qui sont accusées, les personnes dont on a trouvé la clé privée, donc le mot de passe qui détenait ces 3,6 milliards de dollars, c'était contenu dans un drive, dans un cloud. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que c'était même pas chiffré. On a retrouvé le mot de passe en clair dans un drive.
Un vulgaire drive. Ouais.
Comme ça. Et en plus de ça, quand on regarde les personnes qui se font accuser d'être du coup les propriétaires de du coup de les personnes qui ont réalisé ce hack, on se rend compte qu'ils mettaient des vidéos, ils faisaient de la danse, ils chantaient sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Ça ne semblait vraiment pas être deux personnes qui venaient de prendre 3,6 milliards de dollars. Mais parce que du coup, ces fameux 72 millions ont évolué avec les cours et aujourd'hui, ils vont récupérer ces fonds. La plateforme a annoncé qu'elle allait racheter ses fameux jetons du coup et son propre token avec justement les fonds récupérés et c'est pour ça qu'il a explosé. Pour vous dire à quel point c'était virulent à l'époque, le token Bitcoin, d'accord, c'était tellement gros que le Bitcoin lui-même a perdu 20% au moment de ce hack. Parce que quand il y a un hack comme ça, on s'attend à ce que le hacker vende violemment les Bitcoins pour récupérer du dollar ou de l'euro. Donc c'est une histoire assez folle. On n'a pas le vrai fin mot de l'histoire. Peut-être que la personne n'a pas réussi à les blanchir et a donc lâché ça dans un drive d'une personne qui... On ne sait pas. Il n'y a pas le fin mot, si ce n'est que les fonds ont été récupérés et si ce n'est que ça a fait, je pense, la journée de la plateforme qui a récupéré 3,6 milliards.
Oui, on peut se demander ce que vont devenir ces fonds, du coup, Alexandre.
Oui, en fait, ça a fait la journée de la plateforme et des détenteurs du token, parce que ces détenteurs, justement, ils voient la progression du token à 80%, je crois, sur ces derniers jours, juste parce qu'à partir du moment où la plateforme récupère ses fonds, elle annonce qu'elle va, du coup, brûler des jetons et que, par rareté, par effet de rareté, les autres détenteurs de jetons vont se retrouver avec un petit magot sous la main. Maintenant, c'est vrai, comme disait Owen, pour l'instant, il y a deux choses en supplément à dire. La première, c'est qu'on ne sait toujours pas effectivement si les personnes qui ont été interpellées sont à l'origine du hack ou si simplement qu'aujourd'hui elles ont les fonds mais qu'elles ont reçu de quelqu'un. Donc ça c'est extrêmement important à avoir en tête parce que ça se trouve justement elles se sont fait avoir ou alors elles ont cet argent, elles ne le savaient pas. Enfin, il peut y avoir encore beaucoup de choses à découvrir. Mais par contre, ce que ça vient prouver, on parlait de blanchiment juste avant, c'est une énième affaire où on vient prouver que avec le Bitcoin, si on veut blanchir de l'argent, en fait, on n'y arrive pas. Ça fait 5 ans que ces fonds sont toujours là. On n'arrive pas à les dépenser parce que, tout de suite, drapeau rouge de la part de tous les régulateurs, de la part de toutes les agences de sécurité pour dire si ces fonds, ils bougent, moi, je sais qu'il y a derrière. Donc, ces fonds, ils ne bougent pas. Ils sont là. Personne ne les a dépensés dans l'économie. Et ça vient donner une preuve supplémentaire, s'il en fallait, que, effectivement, c'est assez intéressant pour lutter contre le blanchiment et le financement illicite.
Pour rebondir du coup sur ce que dit Alexandre, c'est qu'on se retrouve sur le plus gros hack de l'histoire du monde de la crypto-monnaie qui vient d'être e-found. C'est assez fou parce qu'on en est très loin dans la finance traditionnelle et ça veut dire que clairement il y a un moyen du coup de contrôler ce qui va se passer et de contrôler ces abus, même dans ces nouvelles technologies et du coup dans ces nouveaux assets qui font peur à beaucoup de gens qui ne les connaissent pas.
Les pros des cryptos, c'est toute cette actualité vibrante des cryptos actifs, des crypto-monnaies et la pédagogie pour tous. C'est aussi à chaque fois un voyage. On parlait il y a quelques semaines de la Russie et d'une possible interdiction des crypto-monnaies en Russie. Coup de théâtre cette semaine. La Russie finalement change d'avis et envisage une régulation des cryptos presque au même niveau que les devises étrangères. C'est-à-dire, Alexandre, pouvez-vous nous en dire plus sur cette régulation qui va être mise en place finalement en Russie?
Déjà, pour l'élément de contexte, c'est toujours très compliqué d'interpréter les informations qui nous proviennent de Russie ou de Chine. Pour ceux qui sont dans l'écosystème depuis longtemps, moi, ça fait 7 ans que j'ai monté Blockchain Partner. Je dois avoir vu peut-être 5 ou 6 fois l'interdiction du Bitcoin en Chine, par exemple. Et puis, 6 mois après, il y avait la désinterdiction, puis la réinterdiction, puis la désinterdiction. Donc, on suit ce sujet en Russie de la même façon qu'on le suit en Chine, parce que c'est vrai que Vladimir Poutine, il y a encore quelques années, avait rencontré le fondateur d'Ethereum. Il avait dit que du bien sur l'Ether. Puis après, il y avait eu un souffle de froid. Puis après, un souffle de chaud. Donc là, on est toujours dans cette dynamique-là. On a eu la banque centrale russe qui s'est exprimée sur le sujet et qui, comme toutes les banques centrales, évidemment, voit une concurrence monétaire arriver avec ces nouveaux sujets et donc s'est exprimée en disant « il faudrait peut-être l'interdire parce que ça va nous faire de l'ombre ». Dans le sens inverse, on a le gouvernement russe, et en particulier Vladimir Poutine, qui voit plusieurs choses. Il voit le fait qu'il y a des avantages sur le minage, on le répète assez souvent. La Russie, c'est un territoire sur lequel vous avez, de mémoire, c'est à peu près 30 ou 35 fois la puissance du parc nucléaire français inutilisé. C'est-à-dire des barrages hydroélectriques en Sibérie, par exemple, qui ont été créés pour des installations soit pétrolières, soit du temps de l'URSS. Plus personne pour consommer. Donc vous avez une puissance monstrueuse qui ne demande qu'à être utilisée pour du minage.
Oui, ce sont des installations déjà existantes.
Exactement. Ouais. Donc sur ce sujet-là, Vladimir Poutine dit attention, on va peut-être ralentir avant d'interdire tout parce qu'on a des avantages significatifs sur une nouvelle industrie en train d'émerger. Il y a des projets de minage en Russie qui sont complètement officiels sur des plateformes pétrolières, recycler le gas flaring, on en a parlé plusieurs fois aussi. Donc la Russie n'a pas intérêt à le faire. Mais il y a aussi tous les enjeux géopolitiques. Et en ce moment, on va dire que la Russie est un peu au cœur des débats géopolitiques avec tout ce qui se passe autour de l'Ukraine, avec ce qui a pu se passer autour de l'Iran par le passé, avec la Syrie, avec plein de sujets dans lesquels, à partir du moment où on commence à réévoquer le fait, par exemple, de sortir la Russie de SWIFT, qui est le système de paiement international, mais en fait, au bout d'un moment, plus le Bitcoin prouve sa résilience et plus il prouve qu'on peut l'utiliser sans passer par le système international qui est contrôlé globalement par l'Occident, bah, la Russie va commencer à s'y intéresser, pas que sur le minage, pas que sur la monnaie, mais comme une alternative pour pouvoir continuer d'exister malgré des menaces géopolitiques qui pèsent sur elle.
Alors on comprend l'enjeu des cryptos pour la Russie, il faut qu'on comprenne l'enjeu de ce qui se fait en Russie, ce qui se passe en Russie pour les cryptos. Le fait que la Russie veut réguler les cryptos comme des devises étrangères, est-ce que finalement ça va participer à légitimer davantage ces cryptos comme des devises.
Alors, déjà, faut se rendre compte que 12% des crypto-monnaies sont détenues par les Russes. On est sur 210 ou 220 milliards sur le marché, donc à peu près 12% aujourd'hui. C'est donc naturellement des porteurs qui sont très importants dans ce marché. En plus de ça, il y a eu du coup, et c'est ça qui est assez fou parce que ça fait du bruit dans le monde de la crypto-monnaie, une position de la Banque centrale. Puis après réflexion, on revient dessus. Dans les mêmes semaines où l'Inde a pris à peu près la même chose. L'Inde était sur le point d'interdire les crypto-monnaies. Il y a eu différentes informations, notamment de la consultation et de la réflexion. Heureusement, on y vient. Mais aussi, pendant la crise Covid, énormément de donations qui ont été faites par un projet qui s'appelle Polygon, qui a fait réfléchir parce que ils ont compris que ça pouvait également avoir un côté qui était très loin de tout ce qu'on pouvait dire sur le blanchiment et toutes ces choses qui ne sont que des idées reçues, en tout cas en grande partie. Et du coup, naturellement, on arrive dans une phase où on commence à se rendre compte que même les géants qui ont des idées négatives reviennent. On pourrait presque donner raison à ceux qui disent que la Chine va faire demi-tour sur le minage en 2022, et c'est un grand pari qui serait tenu par beaucoup à cette table, je pense. En tout cas, on commence à voir que c'est dans le système global. En plus de ça, on voit que ce changement de statut va structurer du coup la position du Bitcoin vis-à-vis de la loi actuelle. Et qui dit structuration dit possibilité financière par les institutions et du coup ouverture légale et donc retrait de certains risques qui va peut-être inverser la tendance d'acteurs qui voulaient se lancer et qui considéraient que le risque était supérieur à aller dans les cryptos plutôt que de ne pas y aller. Ça y est. Et par une force qui est connue mondialement et qui détient déjà 12% des crypto-monnaies. Donc je pense que c'est positif pour cet actif. Mmh. Encore une fois, on va voir comment ça va se développer. Mais très clairement, ce changement de statut va rappeler deux choses. Déjà, les États-Unis qui avaient eu très très peur de voir le Salvador utiliser du coup le dollar. Et on sait qu'il y a une réticence quand on voit un pays qui utilisait à la base une monnaie partir sur un actif comme celui-là. Il y a eu une tension. Et ça rappelle quelque chose de très très profond, je pense, c'est que les États-Unis ont clairement dit « Attention, s'il y a du coup quelque chose avec l'Ukraine, nous on peut mettre une pression de par notre monnaie. » La monnaie ne doit pas servir à mettre une pression. La monnaie ne doit pas être un outil. Et même si, bien entendu, c'est le cas par beaucoup, ça s'est rappelé qu'il y a des alternatives qui existent aujourd'hui. Et dire que Bitcoin existe et que Bitcoin peut permettre ces alternatives rappelle que on peut également lutter grâce à Bitcoin contre la pression qu'on peut subir quand on est obligé d'utiliser une monnaie.
Bon, moi, juste pour ajouter deux mots d'un point de vue politique, lorsque le Salvador a fait de Bitcoin sa monnaie légale, on a cru que beaucoup de gens ouvriraient les yeux sur le fait que si c'est une monnaie. On se rend compte qu'en réalité beaucoup de gens continuent avec des œillères à dire c'est pas une monnaie, alors que à chaque fois qu'ils le disent c'est une insulte diplomatique globalement puisqu'ils disent au Salvador vous n'êtes pas un pays. Ça va être très compliqué de tenir le même discours avec la Russie puisque bon la Russie n'est pas un pays, là, je pense que
ça va devenir plus dur.
Incroyable. Bon, peut-être que pour que tout le monde soit d'accord sur le fait que les cryptos sont pas seulement des cryptoactifs, mais des crypto-monnaies, peut-être faudra-t-il que l'usage soit beaucoup plus répandu et que les outils qu'on utilise au quotidien s'imprègnent de fonctionnalités compatibles. Or, il semble qu'un pas de plus important est en train d'être réalisé. Apple va proposer une nouvelle fonctionnalité de paiement pour les iPhones. Tenez-vous bien, cette fonctionnalité pourrait permettre à tous ceux qui le souhaitent de dépenser des crypto-monnaies directement depuis leur iPhone. Owen, que sait-on de cette future fonctionnalité ?
Alors, en réalité, on a un petit flou encore. Parce qu'on peut déjà payer avec son iPhone, puisque la carte de Coinbase peut être ajoutée à Apple Pay, si je dis pas de bêtises. Et donc, c'est la seule d'ailleurs. Et donc, on peut payer partout avec Apple Pay grâce à sa carte Coinbase qui dépense des bitcoins. Bon, ok, il y a tout un mécanisme, mais en bout de chandelle, on peut dépenser ses crypto-monnaies avec Apple Pay. Alors, est-ce que ce message veut dire qu'on pourra mettre n'importe quelle carte qui permette de dépenser de la crypto ? À ce moment-là, c'est juste un élargissement de ce qui existe déjà. Mais quand on lit les petites lignes, et il faut aller lire les petites lignes pour bien comprendre, on se rend compte qu'on parle non seulement des paiements sans contact, on parle du coup de toutes les cartes qui sont intégrées, mais ils parlent également, et c'est très flou, ils ont écrit « et autres portefeuilles digitaux ». Alors on ne peut pas du tout savoir ce que ça veut dire, c'est une interprétation de ce qu'a dit Apple, mais là il y en a beaucoup qui se disent qu'ils sont déjà en train de travailler avec des différents portefeuilles, peut-être ils vont annoncer leur portefeuille à eux, et là on peut spéculer pour ne pas dire rêver et imaginer un petit peu ce qu'on veut pour fantasmer sur ce qui serait possible avec Apple. En tout cas, 90% des commerçants acceptent Apple Pay aux États-Unis. Autant vous dire que si c'est le cas, ça va être une adoption massive et violente.
Payer en crypto depuis son iPhone, ce serait une véritable évolution, un pas géant, un petit pas pour Apple, un grand pas pour l'humanité si on pouvait payer en crypto via son iPhone.
Alexandre. Ça dépend des modalités, c'est ce que a dit Owen, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est très flou. S'il s'agit d'accepter d'autres cartes bancaires crypto, rien de nouveau sous le soleil, c'est une belle évolution parce qu'on aurait autre chose que Coinbase, donc c'est sympathique, mais ce serait pas une révolution. Maintenant, si effectivement il y a un wallet intégré aux iPhones ou bien qu'on peut directement payer en Bitcoin depuis son iPhone, là effectivement il y a une révolution. Alors je rajouterais quand même un bémol, c'est, on va dire, la possibilité technologique ne fait pas tout. Si je prenais le cas de la France, je rappelle que la fiscalité française par exemple nous impose, lorsque l'on fait un achat en Bitcoin, de déclarer la plus-value réalisée comparativement à l'ensemble de son portefeuille. Donc même si on pouvait payer partout en crypto, on se retrouverait à payer en carte bancaire 1,10€ sa baguette de pain. Ah zut, j'ai fait une plus-value de 25 centimes que je dois reporter au fisc, etc. Ce que beaucoup de contribuables n'ont absolument pas envie de faire. Donc en fait, on aurait encore quelques freins qui subsisteraient pour l'adoption des cryptos.
Il y a des cartes justement qui permettent de payer en crypto dans les bars, dans les restaurants, etc. Comment ça se passe dans ce cas-là fiscalement ?
Alors d'un point de vue fiscal, normalement, ce n'est pas réalisable avec la fiscalité actuelle. Pour vous dire, sur la dernière déclaration, je crois qu'on prévoyait 10 sessions imposables. Ça veut donc dire que si on a fait de la plus-value, on fait 10 paiements par carte et le fisc ne prévoit pas cette situation. Donc, autant dire qu'actuellement, c'est faisable. Globalement, si on tombe sur un contrôleur qui a une bonne volonté et qui veut bien faire, on va regrouper l'ensemble de ces sessions pour calculer une plus-value. Mmh. Avec un petit peu de bonne volonté, on peut faire quelque chose de propre. Mais actuellement, comme le dit la loi et selon interprétation, ça ne permet pas de le faire. Surtout que quand on utilise sa carte de paiement, on peut s'abonner, peut avoir des prélèvements automatiques. On se retrouve vite à devoir justifier 298 transactions. Enfin, ça devient catastrophique si on doit refaire le calcul des plus-values à chaque fois. Il y a des outils qui aident les particuliers. En France, il y a la société Waltio. Il y en a plein d'autres qui aident du coup à tracer en fait tout ce qui va consommer et tout ce qui va en fait dépenser de la crypto-monnaie pour établir en pied de ligne qui a gagné quoi et qu'est-ce qui est dû à la fiscalité.
Bon, ce monde reste un peu complexe, mais il tend à peu simplifier, se démocratiser. On en a plein de signaux chaque jour. C'est un peu lent, mais ça prend. Dans l'univers NFT aussi d'ailleurs, rien que ces dernières 24 heures, YouTube a dit voir un énorme potentiel pour les NFT. Gucci a acheté de son côté une parcelle dans The Sandbox Game. Et vous aussi, messieurs, vous nous alertez sur ces nouveaux protocoles, ces nouveaux usages de la blockchain qui pourraient contribuer à transformer le quotidien. Par exemple, l'équipe de AAVE, c'est un protocole de finance décentralisée, cette équipe s'apprête à sortir Lens Protocol. Ça pourrait donc donner naissance à un média social décentralisé, Alexandre. Et ce protocole fonctionnera principalement, justement, grâce aux NFT. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, ce protocole ? Comment est-ce qu'il va fonctionner, ce protocole, ce média social décentralisé ?
Alors, malheureusement, je ne vais pas pouvoir en dire énormément de choses parce que justement, il faut rester très sceptique par rapport aux annonces. Dans la crypto, des annonces, il y en a à peu près tous les jours. Donc, il faut regarder ce qui est vraiment délivré à la fin. Pour faire un peu de contexte, le sujet des médias décentralisés, c'est quelque chose où moi, j'en ai vu un certain nombre sur les dernières années qui se confrontent toujours à des problèmes techniques ou même à des problèmes tout à fait sociaux. Encore une fois, par exemple, si on vous dit « Ah, vous pourrez grâce à moi garder le contrôle sur vos données personnelles », si le principe du média, c'est de les transmettre à quelqu'un ses données personnelles, vous n'avez pas du tout la garantie qu'il n'y a pas quelqu'un qui prend un screenshot de l'écran, qui prend les données, qui part avec. Donc en fait, il y a plein de problématiques qui sont au-delà de la blockchain ou des cryptos. Ceci étant dit, c'est intéressant ce que veut faire Aave, c'est effectivement un peu comme ce qu'ils font déjà avec leurs produits de prêt et d'emprunt, c'est-à-dire une forme de couche sur laquelle vont se greffer d'autres applicatifs, en l'occurrence financiers pour la couche d'emprunt et de prêt. Ici, ce serait la même réflexion, une couche avec des NFT, avec du média social, etc., sur laquelle pourront se greffer d'autres applicatifs sociaux, cette fois-ci, non pas financiers. Malheureusement, c'est annoncé qu'ils vont le faire bientôt.
Oui,
d'accord. Bon, je ne vais pas commencer à faire des plans sur la comète. Moi, je pense qu'il faut être curieux sur ces projets-là. Je trouve qu'à chaque fois, les projets sont très intéressants. Je suis assez déçu qu'effectivement, à chaque fois, ils n'arrivent pas à délivrer parce qu'il y a toujours des problématiques techniques. Aive, c'est un acteur assez important de la finance décentralisée, donc on peut avoir des espoirs sur le fait qu'ils arrivent à faire quelque chose.
Et c'est de la pédagogie ici. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras.
Donc, tout à fait.
À suivre, à voir si tout cela délivre et si Aive, il faut dire Aive, pas AVE.
Ou AVE,
ça vous va aussi.
On sait pas.
Si ça délivre, en tout cas. Owen, il y a un intérêt particulier à décentraliser des réseaux sociaux classiques?
Alors, il y a des intérêts, mais il y a des avantages et des inconvénients en fonction de la position qu'on prend.
C'est très suisse.
Là où je rejoins totalement ta position, c'est que c'est encore très très flou. On a eu des bonnes initiatives, mais qui n'ont pas été plus loin, ça a été développé, mais on s'est arrêté au proof of concept, on n'a pas été plus loin. Donc, c'est très très dur de donner un avis parce qu'on n'a pas encore de parfait concept et d'exemple à souligner, du moins qui a duré dans le temps. Il y a certains avantages, notamment sur la censure. À partir du moment où c'est sur la blockchain, on peut totalement rendre un contenu incensurable. C'est merveilleux. D'un autre côté, quelque chose de purement incensurable, ben on peut avoir des horreurs incensurables. Mais on a réussi à trouver des solutions de par la gouvernance de la communauté et de par l'automodération. Là où on ne peut pas censurer quelque chose, on peut mettre des règles qui donnent droit à tout utilisateur de venir sanctionner, voire de rendre illisible un contenu, s'il y a un ensemble d'utilisateurs qui partagent le même avis, qui est de dire « ce contenu n'est pas adapté à la plateforme et ne respecte pas les règles ». Donc en fait, on est encore en train de trouver les problèmes, les avantages et de proposer des solutions. Un truc qui est sûr, là où c'était très compliqué avant, c'était qu'on avait des layers et du coup des blockchains programmables qui demandaient beaucoup de plus de frais, plus de délais, et donc c'est très compliqué d'imaginer un réseau parce qu'il faut imaginer chaque interaction avec le réseau comme une transaction. Créer, envoyer, recevoir un message. Là maintenant qu'on a du coup ces fameuses blockchains et qu'on attend le consensus layer d'Ether qui va permettre de faire des transactions insignifiantes au niveau de leur coût et très rapides, là on commence à se dire bon, on peut envoyer des messages. Chaque message peut être une transaction. On peut envoyer des publications. On peut commencer à modérer. On peut commencer à mettre des DAO, donc des organismes décentralisés, qui vont faire qu'il va y avoir une règle et que, bah, par exemple, on peut dire bah, toutes les personnes qui modèrent justement et qui ont supprimé des posts douteux du réseau reçoivent de par la DAO X euros par mois, par exemple. Et quand il y a une attribution financière, il y a des gens qui vont se lever le matin qui vont dire « Ok, moi, mon job, c'est de modérer et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de saleté, entre guillemets, et de choses horribles sur un réseau décentralisé. » Donc, on arrive au moment où on va commencer à avoir les premiers usages, je pense, et je suis quasiment certain que 2022 va nous en proposer quelques-uns. En attendant, on sait que Vitalik Buterin en a parlé. On sait également que la plupart des grosses entités, je pense notamment à FTX, a investi massivement dedans. On sait que ça intéresse aussi Binance, donc le financement est présent. La technologie, les verrous techniques commencent à être levés. Ça ne serait pas surprenant de voir des usages maintenant, et donc qu'on puisse s'essayer aux réseaux sociaux décentralisés très bientôt.
Bon, on parlait de Aave ou AAVE, on verra s'ils parviennent à délivrer. Il y a une crypto qui porte ce nom aussi, dont il faut peut-être regarder le potentiel. Vincent Gagne est toujours avec nous.
Le mot de la fin.
Et le mot de la fin. Le feu d'artifice. Le potentiel sur AAVE ou FIOP?
Oui, ben on peut faire l'analyse technique sur tous les jetons. Oui, c'est une belle tendance haussière. Oui, ça fait des mois que le marché est en transition latérale. Il y a un support qui a bien fonctionné. Pour moi, le point bas était fait à $135. Encore une fois, c'est subjectif. Et je pense que le marché construit une pattern de relance haussière. Donc oui, il y a vraiment du potentiel. Et tous les mois, les derniers mois de neutralité seront mises à profit pour reprendre cette phase-là. Donc voilà, c'est mon point de vue. Point bas fait à $135 et belle perspective.
Dans les altcoins, c'est celle qu'il faut particulièrement suivre ou vous en voyez d'autres?
Pas forcément en termes de. Il y en a d'autres, moi j'en suis un certain nombre, mais là où on parlait d'AAV, donc oui. Alors en termes de timing, de proximité de support, je pourrais vous parler de. Allez, jetons-nous, Cardano. Un bon support entre 1 et 1,10 dollars, belle zone d'accumulation si le marché donne encore une chance d'y retourner et après ça repart. Mais bien sûr, tout ceci reste subjectif.
Il fête aujourd'hui ses 50 ans, pas ses 50 ans, la 50e des pros des cryptos, pardon.
50 ans dans 10 ans.
Pareil. On espère être tous les deux encore ici pour ces pros des cryptos.
Owen, c'est dans l'avenir qu'on passera tous le restant de nos jours.
Et on y sera fermement. Merci à tous les trois. Owen aura alors 20 ans, non.
Presque. Je sortirai de ce varal.
Bientôt. Salut messieurs, merci d'être passés nous voir. Owen Simonin, Just Mining et sa chaîne YouTube Asher, Vincent Gann, analyste technique indépendant, Alexandre Stachenko pour KPMG et cofondateur de Blockchain Partner. Bonne soirée, bon week-end. Le CAC 40.